Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous étudierons la 13e partie du thème « Ce monde que nous devons haïr ». L'homme de Dieu nous conduit dans cette méditation en commençant par trois textes de référence, dont le premier est Romains 12, verset 2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jacques 4, verset 4 dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 5, versets 4 à 5, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Les précédentes méditations nous ont permis d'avoir un aperçu du monde que nous ne devons pas aimer, le monde en tant que ordre, organisation et système luciférien radicalement opposé à Dieu et aux intérêts de son royaume. Nous avons compris que le monde opère à l'aide de 8 tentacules représentés par des nations, des civilisations, des idéologies, des concepts. À travers ces tentacules, le monde se servant de ses 3 principaux leviers que sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, torpille et embrigade l'humanité sans Dieu et met à mal la position des enfants de Dieu que nous sommes. Pour nous, enfants de Dieu et Église de Jésus-Christ, il est important que nous sachions comment vaincre le monde et être à l'abri de son influence. Tel est le but que nous poursuivrons dans la présente méditation, car ne l'oublions pas, nous devons haïr ce monde, nous devons extirper de nos cœurs l'amour du monde afin de ne pas être en inimitié avec Dieu. En premier lieu, ce que nous devons comprendre au sujet du monde est qu'en considérant ces 8 tentacules qui rendent possible et facilitent son emprise sur nous, on réalise qu'en fait le monde ne peut trouver d'ancrage en nous qu'en exploitant ou en exacerbant nos besoins, nos attentes et nos aspirations naturelles, physiologiques, psychologiques, spirituelles, légitimes. À la différence du péché qui est en nous, le monde est une influence extérieure à nous. Il ne peut donc nous atteindre que si nous lui donnons d'accéder à nous par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous pouvons par conséquent agir contre le monde et son influence. Pour cela, il nous faut déterminer avec clarté et dès le départ de ce que doit être notre position vis-à-vis du monde. Nous devons prendre la décision de haïr le monde. Cette position ne se négocie pas. Cela veut dire que nous devons être prêts à rejeter toute forme de sympathie vis-à-vis du monde partout où on le rencontrera. Cela se traduira par notre intransigeance, notre radicalité et notre détermination. Nous ne devons tolérer aucun compromis à ce propos. Nous n'admettrons pas que quoi que ce soit usurpe dans notre cœur la place qui revient à notre Dieu. Ce fondement étant posé, nous allons voir comment agir contre chaque tentacule. Ce qui est en vue à présent, c'est la façon d'agir contre le tentacule des besoins nécessaires et vitaux. Souvenez-vous des ravages que le monde cause quand face à ou sous la pression des besoins vitaux, on ne fait pas preuve de crainte de Dieu, de sagesse, de consécration et de vigilance. L'épreuve de la faim avait réussi à pousser Abraham en Égypte. Cela lui a été très préjudiciable. C'est aussi l'épreuve de la famine qui fut à l'origine de la descente d'Élimélec, de son épouse Naomi et de leurs enfants au pays de Moab. Ils y étaient descendus pour solutionner le problème de la famine. La tragédie de la mort les y attendait. Hélas, la faim a piégé Ésaü et l'a poussé à brader son droit d'aînesse. Satan avait attendu que le Seigneur Jésus eût faim pour le tenter. C'était sans compter avec la vigilance de notre Seigneur. Face à nos besoins vitaux, 5 attitudes doivent guider notre démarche. La première, l'utile et le nécessaire doivent être la norme. Si le Seigneur, dans sa grâce, nous permet d'avoir plus que ce qu'il nous faut, manifestons-lui notre reconnaissance sans toutefois idolâtrer le surplus qu'il met à notre disposition ou en faire une raison de nous enorgueillir. Nous devons voir en ce surplus des possibilités de mieux le servir. Rien de ce que nous possédons ne doit nous posséder. Nous sommes maîtres et non esclaves de ce que Dieu met à notre disposition. Nous devons tenir nos possessions sous contrôle plutôt que de les laisser contrôler nos vies. L'utile et le nécessaire doivent rester la norme et nous devons nous en réjouir. Toutefois, si de par nos activités légales et de par notre position ou statut, de par nos réalisations et investissements, nous pouvons avoir plus que ce qu'il faut, sachons raison garder et évitons de sombrer dans le m'as-tu vu, dans l'ostentatoire ou dans l'extravagance. Nos efforts d'accroissement de nos possessions, nos efforts de réalisation, d'épargne ou d'investissement ne doivent en aucun cas être motivés par le désir caché d'assouvir la convoitise de la chair, de satisfaire la convoitise des yeux et de flatter notre orgueil. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31. Troisièmement, évitez de nous laisser aller à l'inquiétude, au souci ou à l'anxiété au sujet de nos besoins vitaux et nous souvenir en permanence que Dieu connaît tous nos besoins mieux que nous avons la possibilité à tout moment de les lui exposer, de les déposer à ses pieds, avec une pleine assurance quant à sa volonté et sa capacité d'y pourvoir. Nous lisons 3 textes. À la suite l'un de l'autre, nous lirons d'abord Matthieu 6, 28-34, puis Philippiens 4, verset 6, et ensuite Matthieu 7, verset 7 à 11. Il est écrit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que serons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quatrièmement, nous devons être vigilants et très attentifs quant à notre manière de solutionner nos besoins vitaux, surtout quand ces besoins prennent l'allure d'épreuves, car toutes les solutions ne sont pas libératrices. Il y a des portes ouvertes qui débouchent sur des situations pires que ce qu'on veut éviter. Il y a des solutions qui se muent en difficultés, voire en tragédies. Un besoin aussi pressant soit-il, n'a jamais été un péché, tout besoin vital étant légitime en soi. Cependant, le péché n'intervient que si nous adoptons une voie de résolution non conforme aux principes et aux valeurs de Dieu et de son royaume. En matière de résolution de nos besoins vitaux, la norme pour nous, disciples de Christ, doit consister à ne pas emprunter de voie qui entre en conflit avec la volonté révélée de Dieu. Toute méthode qui, dans son élaboration comme dans sa finalité, pourrait devenir un cas de conscience, nous placer sous le joug de la culpabilité ou affaiblir notre position en tant que témoin de Christ, lumière du monde et celle de la terre, doit être écartée. C'est une option piégeante. Souvenons-nous que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Préférons les voies de Dieu, quoi qu'il advienne, car que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Enfin, cinquièmement, suis-je en paix avec ce que je possède? Mon cœur est-il en paix? Ou est-ce que je suis rongé de l'intérieur par la souffrance due aux convoitises non assouvies, à un esprit de compétition, de concurrence et de rivalité imaginaire? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, doit nous servir de boussole ou de baromètre. Sa présence en nous montre que le monde n'a pas d'emprise sur nous. Son absence, par contre, est révélatrice du fait que notre cœur s'est laissé appâter par les soucis de ce siècle. Soyons vigilants. À retenir, nous pouvons agir contre le monde et triompher d'eux par lui, par la foi. Nous pouvons agir contre la pression et l'épreuve des besoins vitaux. La norme pour tenir dans ce combat contre la pression des besoins vitaux, c'est l'utilité et la nécessité. Souvenons-nous que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile ne doit pas nous asservir. Dieu notre Père sait de quoi nous avons besoin. Remettons-lui notre sort et plaçons-en en lui notre confiance et il agira en notre faveur. En toutes circonstances, la paix de Dieu dans notre cœur doit nous servir d'élément de vérification en ce qui concerne la préhension ou pas que le monde exerce sur nous à travers le tentacule des besoins vitaux et à vaincre le tentacule des besoins vitaux. Que Dieu nous fasse grâce afin que le monde ne trouve pas en nous de disposition qui facilite sa préhension sur nous. Consacrons-nous davantage au Seigneur en vue des exploits préparés d'avance pour que nous les accomplissions avec Dieu, selon Psaume 60, verset 14. Excellente journée en Christ Jésus. Signé votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce mercredi 13 mai 2026.